Et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce live Paris Central où on a invité un invité très spécial, à savoir Fabrice qui travaille directement pour les médias du club. J'ai avec moi Kev et Tonton, mais on va commencer direct avec Fabrice. N'hésite pas, qui es-tu? Comment es-tu arrivé au club? Est-ce que tu peux te présenter?
Salut à tous, écoute, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir de partager ces petits moments avec vous. J'aime bien avoir des petits rapports comme ça avec la commu parce que je trouve que c'est une communauté qui est assez active, qui aime véritablement le club, donc je trouve que c'est assez sympa. Et puis d'avoir un petit lien entre le club véritablement à mon échelle, c'est pas grand chose mais quand même un petit peu parce que nous on fait tout le contenu. Donc je suis Fabrice Porzic, journaliste au digital du Paris Saint-Germain, donc nous on fait tout le contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux, sur le site web. Moi, je suis beaucoup plus site web que réseaux sociaux. Mais nous, voilà, on crée tout le contenu auprès des joueurs, auprès des joueuses. Il y a aussi le handball avec des mecs qui sont dédiés pour le handball. On crée tout le contenu, les articles, les vidéos, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux du PSG, sur le site. C'est nous, c'est notre équipe qui le crée. Et donc, voilà, c'est notre quotidien. Et du coup, ça me fait plaisir un petit peu de, ne serait-ce que, voilà, discuter un peu avec vous et puis prendre la température sur, parce que j'ai pas trop demandé jusque-là, mais ce que les gens pensent un petit peu du contenu qu'on fait, nous, sur les réseaux du PSG. Parce que, sans vouloir nous envoyer des roses, on a eu quelques accolades de la part des autres clubs, notamment, qui font, il y a des espèces de petits, des petits awards du digital et le PSG arrive souvent bien positionné. Donc nous, on est assez contents de ce qu'on fait et j'espère que ça vous plaît à vous, la commu, évidemment.
Ben moi, là où je t'ai vu, c'est notamment avant les confs de presse ou après les confs de presse dans des interviews que tu peux faire et c'est toi qui anime en fait, c'est toi qui anime ces moments-là essentiellement.
On anime. Alors, moi, je suis beaucoup sur Twitch depuis 3-4 ans désormais. Le club avait signé un partenariat avec Twitch parce que Twitch a voulu étendre un petit peu ses horizons. C'était beaucoup de gaming, ça l'est encore aujourd'hui. Mais ils avaient approché des entités sportives pour créer du contenu autour du sport et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, au PSG, on a fait ça aussi. On est le premier club sur Twitch. Hein. On a plus de 500 000 followers sur Twitch, ce qui est plutôt pas mal. Donc, on fait beaucoup d'émissions, des lives, des match centers où on commente les matchs en direct sans pouvoir montrer les images parce qu'il y a évidemment des droits de diffusion qui entrent en ligne de compte. Et puis, il m'est arrivé aussi de faire un petit peu de PSG TV parce que je travaille beaucoup avec Ambre Godillon qui, elle, est très connue, évidemment, dans toute la commu. Elle est à la présentation de PSG TV. Elle fait les avant-conf avec le coach et avec David qui est là pour la partie anglaise aussi. Et puis, quand Ambre n'est pas là, il m'arrive de la remplacer de temps en temps parce que voilà, j'ai l'expérience un petit peu du live et voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et vous avez pas mal de vues, en plus du fait d'avoir pas mal d'abonnés sur Twitch, justement, tu arrives à avoir une petite communauté qui se met en place, ça se passe comme tu veux en fait et comme le club 2.
Oui, ça se passe bien parce qu'on a les meilleurs chiffres. Donc du coup, voilà, maintenant, Twitch, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a un côté un petit peu plus détendu. L'audience est peut-être un petit peu plus jeune, mais pas forcément. Mais on parle à des gens qui sont un peu plus jeunes, donc peut-être un petit peu plus cool. C'est aussi un autre moyen de regarder la télévision, de regarder du contenu. Donc voilà, on est un petit peu plus détente sur Twitch. On essaye de parler un petit peu franchement quand on est sur Twitch. Donc les gens apprécient et la communauté grandit de jour en jour. Et on a souvent des gens qui reviennent régulièrement et qui nous connaissent et qui participent parce que la particularité de Twitch, en tout cas l'une des particularités, c'est d'avoir le chat en direct. Donc les gens peuvent interagir. On a eu des super invités. Alors c'est jamais évident d'avoir des gros joueurs, mais on avait eu Wijnaldum, on avait eu plusieurs joueurs, des anciens, etc., qui viennent discuter. C'est aussi une passerelle un petit peu entre les supporters et puis les gens qui font le club véritablement, les sportifs. Donc ouais, ça marche comme on veut. On fait des émissions sans trop regarder les chiffres, honnêtement, parce qu'on a juste envie de délivrer du très bon contenu. Et puis voilà, si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, on essaye d'améliorer les choses. Mais voilà.
À partir du moment où tu es backup par le PSG, l'objectif, en fait, il est quali. C'est vraiment pas la quantité qui va compter. Alors après, là, ça commence à whine un tout petit peu dans le chat parce que, en même temps, on a Fabrice qui est un journaliste. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot, community manager, journaliste officiel pour le Paris Saint-Germain. C'est normal, on prend un moment pour parler un petit peu avec lui, pour le comprendre. Mais vous inquiétez pas, on va parler foot et je vais vous proposer d'attaquer direct. En fait, il y a 2 jours, la Ligue 1 commençait. Ça fait déjà maintenant 3 mois, donc. Il y a 2 jours et 3 mois, pardon. Et donc, ça fait 3 mois. Et peut-être l'heure, peut-être pas encore un bilan au niveau du coaching, parce que c'est, à mon avis, il va falloir attendre un petit peu pour se faire ce bilan et se faire vraiment une idée. Mais peut-être commencer par les joueurs, et j'ai envie de vous commencer à vous poser une question. C'est quel joueur qui vous a le plus impressionné? On va commencer avec Tonton, enchaîner avec Fabrice, et ensuite de ça avec Kev.
Avant de commencer, je dirais pour qu'un joueur il impressionne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il surprenne. C'est-à-dire que si un grand joueur fait une grande saison, pour moi, il ne va pas m'impressionner parce que je trouverais ça normal. En revanche, si tu as une adaptation éclair ou justement des très bonnes entrées, là, c'est quelque chose que justement va m'impressionner. Pour moi, le joueur qui m'a le plus impressionné depuis le début de saison, j'hésite entre deux. C'est deux joueurs qui ne sont pas encore des titulaires et qui sont des jeunes. J'hésite entre Kang In-Lee et Barcola. Pour la simple et bonne raison que ces deux joueurs qui étaient dans un club qui était d'un standing bien différent de celui du PSG avant d'arriver, qui n'avaient jamais goûté à la concurrence telle que le PSG jusque-là. Et malgré ça, c'est des joueurs qui montrent leur potentiel, montrent qu'ils sont impliqués. Les entrées de Barcola et de Kang sont pour l'instant très pertinentes. Et en tout cas, pour moi, j'ai hâte de les voir titulaires plus régulièrement, en tout cas.
Fabrice, je laisse enchaîner. Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont particulièrement tapé dans l'œil en ce début de saison?
Moi, je suis assez d'accord avec Tonton, c'est comme ça qu'on t'appelle, Tonton Voleur, c'est ça? J'aime beaucoup, ouais, Lee, c'est, alors c'est, il reste encore à voir un petit peu plus, hein, parce que Lee, il a été au Jeu Asiatique, donc on l'a moins vu un peu sur ce premier segment de la saison. Mais c'est vrai que c'est intéressant, il a un petit côté en plus virevoltant qu'on ne connaît pas, le côté un petit peu inconnu qui est chouette. Moi, celui que j'aime vraiment, c'est Warren, depuis le début de saison, qui est en train de confirmer. Ce qu'on voyait déjà l'année dernière, et pas seulement sur le terrain, nous qui le voyons assez régulièrement, c'est, alors je vais dire un gamin, parce que j'aime pas trop le terme, mais c'est un enfant, il a même pas 18 ans, il est d'une maturité extraordinaire, ce qu'il fait sur le terrain, c'est grandiose, mais c'est l'aspect mental qui est impressionnant. Voilà, il a été un peu trimballé à des postes qui n'étaient pas forcément les siens la saison dernière, il a quand même réussi à résister à ça, c'est pas forcément évident. Il est très jeune, il faut pas le cramer. Donc il a quand même une sacrée maturité, une grosse force de caractère et qui se retranscrit vraiment sur le terrain. Je le trouve vraiment impressionnant. Parce que moi, je suis arrivé au PSG en 2015. J'ai vu la fin de Thiago Motta. Quelques temps après, Blaise est parti. Donc il y a eu toute cette marotte du milieu de terrain. On n'arrive pas à retrouver un milieu de terrain, etc. Là, on a Ugarte, qui est une vraie belle surprise, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on l'avait vu un peu. Mais moi, je ne le connaissais pas hyper bien personnellement non plus. Et puis Warren, qui voilà, pour moi, c'est vraiment le gros coup de cœur de ce début de saison.
Je te laisse enchaîner, Kev.
Non, mais je suis plutôt d'accord avec ce que Tonton et Fabrice ont dit. On connaissait plus ou moins tous les grands joueurs qui sont arrivés. Et en termes de surprise, bon, ben, je pense que moi, on sait que j'ai fait une grosse propagande sur Barcola. Donc, j'aime beaucoup le joueur. Et force est de constater que Warren s'impose totalement et s'épanouit dans ce football. Il a que 17 ans, faut pas l'oublier. Il a encore une grosse marge de progression. Luis Enrique n'en dit que du bien. Thierry Henry n'en dit que du bien. Didier Deschamps n'en dit que du bien. Donc, à un moment donné, ça reste quelque chose de pertinent. Et même si il ne peut pas tout le temps faire des bons matchs, il faut quand même aussi souligner que depuis le début de la saison, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt très positif dans ses prestations, qui montre beaucoup de choses, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'humilité, beaucoup de calme. Et une chose positive qui me plaît beaucoup chez lui, c'est sa faculté en fait à comment dire, sans forcément, c'est, tu sens qu'en fait le gars est serein, tu sens qu'autour de lui il y a un apaisement sur une bonne base de travail, qu'il est bien entouré, qu'il se prend pas pour un autre. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important chez les jeunes joueurs aujourd'hui qui se retrouvent très rapidement montés tout en haut et qui, non, lui, il est serein, il est calme. Je pense que c'est quelqu'un qui sait où il veut aller et qu'il y arrivera. Ça passe par le travail.
Moi, j'aurais juste rajouté vite fait un petit passage sur Mukiele, même si Mukiele n'avait pas déçu la saison dernière, mais il est en train de confirmer en fait qu'il ne sera jamais le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, mais qu'il est un joueur qui, par essence, est fiable et assez souvent dans le dépassement de fonction. Et il continue de me surprendre, même si j'attends pas de lui. Peut-être que dans un club idoine, il serait dans un club avec les ambitions du Paris Saint-Germain, il serait peut-être numéro 2 à un poste ou à plusieurs postes qu'il peut couvrir. Mais compte tenu de l'effectif et compte tenu des prestations des uns et des autres, il se retrouve souvent à être numéro 1 et il est très, enfin, pour ainsi dire, jamais décevant, quoi. Donc, je voulais juste le mettre en avant. Maintenant, je vais enchaîner avec l'autre question. On va commencer cette fois avec Fabrice. Ce qui tâche un petit peu plus, est-ce qu'il y a un joueur qui, toi, t'a déçu sur ces 3 mois?
Un joueur qui m'a déçu sur ces 3 mois, écoute. Écoute, c'est pas évident de trouver. Alors peut-être que pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la bonne formule avec Ramos et Colomuani devant, ce qui est un petit peu dommage parce que ça reste des joueurs talentueux. Moi, je suis très très fan de Gonçalo Ramos, parce que je suis beaucoup le football, hein, pas que le PSG. Donc j'ai beaucoup suivi Gonçalo Ramos avant. Il avait crevé l'écran. Je trouve que c'est un vrai, vrai super avançant. C'est un profil qu'on n'a pas forcément. Et je trouve que pour l'instant, on n'arrive pas à l'utiliser comme il faut, ou il y a quelque chose qui prend pas. Puis Randal, voilà, pareil. C'est le problème des attaquants, c'est qu'il y a besoin d'avoir des stats, quoi. Un attaquant qui marque pas et qui enchaîne pas les buts tout de suite, ça se voit. Donc forcément, voilà. Je dirais peut-être de ce point de vue-là. Maintenant, le PSG marque 3 buts à chaque match là ces dernières semaines. Donc l'attaque fonctionne quand même. Donc c'est un petit peu dommage. J'aimerais pouvoir voir Ramos et Colomani performer un petit peu plus parce que c'est des super beaux profils.
On t'entend pas, Adrias.
Ah,
Il a
je
coupé
disais,
son
je te laisse
micro.
enchaîner qu'avec Suzman.
Mais du coup, je rejoins Fabrice aujourd'hui. Moi, je serai un peu plus dur dans mes propos, mais Colo et Ramos sont des déceptions au jour J, bien entendu. On en parle aujourd'hui au 14 novembre. Peut-être que dans 6 mois, on aura un autre avis parce que un temps d'adaptation, comme l'a dit Fabrice, une formule adaptée à un système qui permettra de les mettre un peu plus en valeur. Mais sur les 7 derniers matchs, c'est 19 buts marqués par le PSG. Deux par Colomouani, une bonne dizaine, je sais pas exactement combien par Mbappé, mais une bonne dizaine, onzaine
Il en a
par
neuf, je
Mbappé.
crois. Il en a neuf, je crois.
Neuf
À vérifier,
sur les
mais il
sept
me
derniers
semble
matchs,
qu'il a
ouais,
neuf.
peut-être.
Après, je ne sais pas si c'était
Neuf,
sept
dix,
toutes
je sais plus, j'avais la stat tout à
compétitions.
l'heure et je me suis perdu.
Enfin, il a pris la tête, en tout cas.
Dembélé 0, Barcola 0, Ramos 0, et tout le reste sont marqués par Fabian, Warren, Vitinha et Kangin. Donc en fait, malheureusement, on ne peut pas être dépendant que d'un seul joueur sur le plan offensif parce qu'à un moment donné, la formule va être simple pour les équipes adverses. Et c'est pour ça que Colo et Ramos, moi, je leur demande pas de marquer en fait 60 buts par saison. Mais il faudrait qu'à la fin de la saison, ils soient entre 10 et 15 chacun et que on s'approche de standards qui peuvent permettre à un attaquant d'avoir des stats plus ou moins intéressantes. Même pour la confiance pour eux-mêmes, c'est important parce qu'on est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, qui se crée beaucoup de situations. Et qui marque beaucoup de buts, parce que là, mis à part à Milan, on est sur un standard de 3 buts par match minimum sur les derniers matchs, quoi. Donc voilà.
Je te laisse enchaîner, tonton, et après je poserai la question subsidiaire, mais je te laisse enchaîner, tonton.
Un peu compliqué comme question, dans le sens où, si je suis ma logique depuis plusieurs lives, je ne peux pas mettre Randall et Ramos parce que je n'arrêtais pas d'expliquer que c'est des joueurs qui viennent d'arriver dans une équipe qui n'a pas le même standing que leur équipe précédente, qui n'ont jamais joué dans un jeu de position avant d'arriver au PSG sous Luis Enrique, qui plus est, n'ont pas fait la préparation avec le Paris Saint-Germain. Quand tu mets tous ces éléments-là, je pense que c'est compliqué en tant que neuf de s'intégrer. Surtout que Luis Enrique, on a vu le débat justement ce week-end dans le débrief du match, le dernier neuf que Luis Enrique a recruté de ses propres mains et de ses propres voeux, c'est Luis Suarez. Et la palette n'est clairement pas la même. Donc si je suis un peu plus juste et un peu plus méchant, mais bon là je vais me faire un peu embêter, je dirais Kylian Mbappé. Dans le sens où pour moi, maintenant que Messi et Neymar sont partis, c'est lui le leader du projet, c'est lui le joueur envers lequel tu dois avoir le plus d'exigences à chaque match. Et c'est normal parce que c'est lui qui doit porter ton équipe. Donc je pense qu'il a un peu de mal à s'adapter dans cette animation, Kylian, mais c'est pas pour autant que parce que je le place tout de suite que je suis définitif. Je pense que peut-être qu'à terme, il arrivera à s'adapter, mais j'ai l'impression qu'il a un peu du mal dans ce système. J'ai l'impression de voir un peu un Kylian Mbappé qui marque beaucoup de buts, mais qui n'est pas forcément satisfaisant dans le jeu.
Moi, très rapidement, c'est Skriniar, moi, la déception de ce début de saison. Alors après, il ne joue pas
J'ai hésité.
forcément sur son côté préférentiel, mais c'est celui qui pour l'instant, n'apporte pas ce en quoi ce qu'on attendait de lui. Il y a plein de choses qu'il fait très bien, mais notamment, je pense, alors qu'il était très bon de la tête, c'est son jeu de tête qui est extrêmement défaillant et qui est extrêmement problématique. Et pour l'instant, pour moi, c'est la grande déception. Je voulais vous demander, vous parlez beaucoup des attaquants, mais est-ce que Luis Enrique a déjà joué vraiment avec un neuf? Alors on va mettre Luis Suarez de côté. Est-ce que Luis Suarez c'est le neuf qui sait jouer neuf faux neuf, neuf sur le côté, neuf sur la tête, neuf qu'avec les bras et tout le dawa. C'est le neuf complet par essence presque, sauf qu'il est un peu petit. Mais est-ce que vraiment, enfin est-ce que ça, c'est la faute de ces attaquants? Est-ce qu'on a le coach qui est capable de faire jouer ces attaquants? Est-ce qu'on s'organise pour jouer avec des attaquants comme ça? Je te laisse commencer, Fabrice.
Alors oui, je pense que historiquement, on sait que Luis Enrique ne joue pas forcément avec un neuf, avec ce profil d'attaquant de surface, etc. Maintenant, je pense que ce qu'il voulait aussi, c'était d'avoir un gros effectif. Et il y a un banc qui est assez impressionnant parce qu'une saison, c'est long, on le sait très bien. Et on le sait aussi, ce qui a fait un peu défaut peut-être au PSG ces dernières saisons, c'est le nombre de blessés quand tu arrives dans les moments charnières et clés de la saison. Donc du coup, voilà, il faut avoir un effectif pléthorique et je pense que c'est ce qu'on a au Paris Saint-Germain. Maintenant, on n'est vraiment qu'au premier tiers de la saison à peine, donc il faut laisser le temps de voir comment ça va se passer ensuite. Bon, maintenant, oui, peut-être que Luis Enrique n'est pas un entraîneur qui utilise un neuf, mais il a su s'adapter. On le voit encore depuis le début de saison, il a essayé plusieurs systèmes, mine de rien, qui peuvent plus ou moins plaire, mais il essaye quand même des petites choses. Donc je pense que l'idée, c'est quand même d'intégrer au maximum les joueurs pour que tout le monde se sente concerné et qu'ils répondent présents quand on a besoin d'eux. Ils sont là, les joueurs, les attaquants de pointe, ils sont là et je suis sûr que ça finira par tourner en leur faveur.
Je suis d'accord avec toi, Ramos. On sent plus que c'est un problème de confiance. Il y a un déclic qui s'est pas fait. Et, tu sais, le typique, l'attaquant qui est pas en confiance. Mais on a quand même, tonton, l'impression que Luis Enrique a vraiment envie de travailler avec des faux neufs. C'est quelque chose qui déjà la confiance sur la ceinture au début. Puis maintenant, l'importance que commence à prendre Lee et le fait de l'avoir replacé à ce positionnement-là. Est-ce que pour toi, bah, ce soit le profil de Ramos ou le profil de Colomoini est compatible avec ce qui semble se dessiner des intentionnalités de Enrique?
Les profils peuvent être compatibles, mais au final, c'est quelle utilisation tu vas en faire. Quand je vois Randal Kolo Muani, par exemple, dans le système de Luis Enrique, j'ai du mal à l'imaginer neuf. En revanche, je l'imagine bien ailier avec un rôle de buteur, un peu à l'image de Kylian Mbappé. Alors, bien entendu, je n'ai pas demandé à Randal d'être Kylian Mbappé, ce serait quand même pas sympa ni pour l'un ni pour l'autre. Mais je pense que Ramos peut avoir un avenir, mais il va falloir qu'il se développe techniquement. C'est pas interdit, c'est encore un jeune joueur, il peut progresser, il peut se développer, il n'a pas du tout passé encore le cap des 23 ans ni le cap des 27 ans, Ramos, donc tu peux développer ce joueur. Mais j'ai plus l'impression que oui, je rejoins ce qu'on disait la dernière fois, Asensio est pour l'instant le joueur le plus taillé pour jouer, dans le sens où il va être un faux neuf, et lui il a déjà joué faux neuf sous Luis Enrique, à l'inverse de Ramos et justement de Randal Kolo Muani, qui n'ont jamais joué dans un jeu de position avant et qui n'ont pas eu cette expérience sous Luis Enrique. Et en fait, tu te rends compte que Asensio peut jouer faux neuf. Kanginli peut jouer faux neuf, peut-être même Barcola peut être essayé à ce poste. Et il y a même un joueur qu'on a oublié qui est au fond du placard depuis des mois qui s'appelle Hugo Ekitike. Peut-être que même lui il pourrait être utilisé en tant que faux neuf parce que c'est plus un faux neuf qu'un neuf de par son profil.
Je te laisserai rebondir, Kev, si tu veux rajouter un truc.
Ouais, mais moi je suis pas forcément d'accord sur le fait que Luis Enrique joue qu'avec des faux neufs parce que je viens de vérifier. Mais à l'AS Roma, il joue avec Totti et Osvaldo devant qui sont quand même des
Oui.
attaquants. Au Barça, il a quand même eu Luis Suarez hein, qui n'est pas un faux neuf. Et
Mais ça reste que jouer que faux neuf, c'est un
ouais,
truc
mais
plus
non, mais
grand. Et Paco
après,
Alcácer aussi en remplaçant qui est un vrai neuf.
c'est un attaquant, les gars de base. Luis Suarez à Liverpool, c'est un attaquant de
Même
pointe.
chose.
Et il a joué aussi avec Morata aussi en Espagne, qu'il a quand même utilisé sur certaines rencontres, voire sur certaines mêmes compétitions.
Alors,
Donc
ouais.
voilà, je pense qu'aussi ce délire de faux neuf sous Luis Enrique. C'est au moment où il a eu peut-être des attaquants qui n'étaient pas du profil qu'il souhaitait, ou bien des joueurs qui n'étaient pas en forme au moment où il a voulu les utiliser. C'est vrai qu'en équipe d'Espagne, depuis David Villa et Fernando Torres, même si David Villa est un joueur qui pouvait beaucoup plus jouer sur le côté, il y a quand même une pénurie d'attaquants en termes de performance. Donc il est vrai qu'il a dû s'adapter. Maintenant, je pense que Luis Enrique aimerait. Et on l'a vu durant le mercato d'été, a fait un gros forcing pour avoir un Harry Kane, qui est quand même un attaquant de pointe. Même si il a toutes les qualités requises pour jouer attaquant, pivot, soutien, etc., etc., il a besoin d'un profil de neuf qui est en fait une palette extrêmement large. Et c'est là où aujourd'hui, malheureusement, Ramos n'a pas cette palette pour le moment, Randall non plus. Et c'est dommage parce que les qualités de Ramos associé aux qualités de Randall, ferait un attaquant hyper complet que Luis Enrique aimerait avoir. Mais à voir s'il va arriver à les peaufiner pour leur permettre d'évoluer dans ce système.
Juste un petit bonjour de Montréal, bah, bonjour de Paname, mec, ça fait plaisir que tu sois là à nous suivre. Je sais pas quelle heure il est pour toi, j'espère que c'est une bonne heure et que tu es installé confortablement à nos matés et que tu prends ton pied. Kev, je te laisse enchaîner avec est-ce qu'il y en a un joueur Si tu peux m'en nommer un qui t'a surpris. Non?
Pas... Non, franchement, ça rejoint la question que j'ai dit tout à l'heure. Warren, on attend. Moi, je connaissais un petit peu les
J'avais dit
qualités, mais.
Warren, on l'avait déjà l'année dernière.
Mais non, non, honnêtement, je n'ai pas été surpris par un joueur. Moi, je suis très, très. Je vais te dire, je suis content aussi que Hakimi retrouve des sensations et qu'il soit mis en avant par Luis Enrique, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. C'est un joueur qui a énormément de qualités, qui était très mal utilisé sur les dernières saisons. Et je suis vraiment content que cette association Hakimi-Dembélé soit aussi positive pour la suite de ce PSG, parce que j'ai vraiment cette impression que Luis Enrique veut vraiment en faire une de ses plaques angulaires de son système. Ce binôme-là, avec même un Warren qui peut se rentrer dans ce petit triangle côté droit, qui est très très intéressant, qui a de la percussion, qui a de la vitesse, qui a du volume, et qui aujourd'hui est un des. Ben, c'est le trinôme. Le plus prolifique de ce PSG, si on enlève Mbappé, plutôt pas soliste, mais qui fait plus des différences individuelles. Donc, moi, je suis très, très satisfait de cette espèce de triangle des Bermudes qui fonctionne plutôt bien au PSG. Mais sinon, je n'ai pas de révélation.
Tonton, je te laisse enchaîner.
Alors, pas une révélation, mais si je peux dire une surprise, un truc qui, pour le coup, m'a vraiment surpris. Est-ce qu'on peut parler de l'utilisation de Carlos Soler en tant qu'arrière-droit? Ça, pour le coup, c'est une vraie surprise. Je veux dire, je m'attendais à ce que Carlos Soler avait déjà été utilisé par Luis Enrique en équipe d'Espagne quand il avait eu des absences, notamment en tant que milieu offensif. Je m'attendais peut-être que ce joueur renaisse un petit peu sous Luis Enrique, mais certainement pas à ce qu'il joue justement au poste de la latérale droit et qu'il y apporte plus de satisfaction que son utilisation au milieu l'an dernier sous Galtier. Ça, pour le coup, si tu cherches une surprise, ça, c'est le truc qui m'a le plus surpris.
Ouais, j'en avais une en tête, mais en l'occurrence j'ai oublié. Il y a, du coup, ça commence à défiler. On a Abidjan avec 30 degrés au compteur. Bah, courage. Je ne sais plus que dire sur la température. Peut-être qu'on pourrait avoir
Ah,
envie, mais 30 degrés, c'est un petit peu chaud. Vas-y, Kev.
il fait 25 dans le sud-ouest là actuellement,
Oui,
donc
c'est vrai,
je vais
c'est
pas te
vrai, c'est
mentir
vrai.
que
Mais bon.
c'est pas le même c'est pas la même chose par contre.
Alors,
Je
très
pense aussi que
rapidement, on
t'étais
va
chez
revenir
toi.
sur toi, Fabrice. Hein, parce que bon, bah, même si les gens veulent entendre parler de Paris Saint-Germain, mine de rien, tu bosses au PSG. Comment est-ce que tu es arrivé à ce poste-là?
Alors, j'étais à Londres, moi, avant. J'ai habité 10 ans à Londres et j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses différentes. J'ai bossé en magasin, etc., etc. Puis, je faisais des commentaires de matchs. Je commentais pour Perform, qui fait partie du même groupe que Opta. Perform, c'est une plateforme de distribution pour les matchs sur les sites de Paris en ligne. Et je commentais des matchs en français. Ils avaient des commentateurs de langues différentes et moi, je commentais en français. Et donc, c'est comme ça que je suis un petit peu entré dans le milieu du sport, en gros, du journalisme sportif. Ensuite, j'ai fait des petits stages à droite, à gauche, à Londres. Et puis après, j'ai fait une candidature spontanée au PSG qui, visiblement, à ce moment-là, tout pile, j'ai eu un petit peu de chance, ça c'est vrai,
Bon timing.
cherchait quelqu'un Ah, le bon timing, exactement. Cherchait quelqu'un au digital. Donc, du coup, avec l'expérience que j'avais accumulée à Londres, parce que je faisais de la caméra, du montage, du journalisme, voilà, tout ça. Donc j'avais cette expérience-là. Donc je suis entré au PSG comme ça. Voilà, il y a eu un processus d'entretien qui a duré 3 semaines, 1 mois. Et puis au bout d'un mois, ils m'ont dit, allez, c'est bon, banco. Et du coup, je suis arrivé en octobre 2015.
C'est ce que j'allais te demander, quelle saison donc c'est 2015, on est sur la fin de Blanc, on est déjà sur Emery.
Non, non, c'est la dernière saison de Laurent Blanc, la
Non,
dernière
c'est ce qui me
saison
semble.
de Zlatan. J'arrive, le premier match que je fais au PSG en tant que salarié du PSG, c'est un PSG Real Madrid en phase de poule de Champions, 0-0. Voilà, c'est le
Ouais,
premier match
j'étais au
que
Parc.
je. Ben voilà, c'était pas un grand match, c'était pas un très
Pas
grand
du tout.
match, mais voilà, c'est ce match-là qui a été le premier que j'ai fait au Parc. Et derrière, mon premier jeu de Ligue 1, c'était PSG Saint-Etienne, victoire 4-1. Voilà, je me rappelle de ces trucs-là,
C'est vrai
c'était
que ça.
assez rigolo.
Ouais,
Donc voilà,
ouais.
c'était la dernière saison de Zlatan et donc de Laurent Blanc par la suite.
Merci, Mère, pour cette réponse. Et on va enchaîner du coup avec Kev. Ben, mine de rien, on enchaîne les 3 buts hein, en championnat. Hein. Enfin, on va faire la liste. C'est Rennes, Strasbourg, Brest, Montpellier, Reims. On n'a pas que des clean sheets, mais en tout cas, à chaque fois, c'est du 3 buts. Il y avait ce procès, en fait, qui date de l'équipe d'Espagne de Luis Enrique. Oh, qu'est-ce que ça joue bien, mais qu'est-ce que c'est stérile? Est-ce que cette stérilité, elle est enterrée?
Ben déjà, en fait, c'est pour moi, quand j'entendais des gens parler de Luis Enrique et cette stérilité en équipe d'Espagne, Ah ben malheureusement pour lui, il n'avait pas les joueurs qu'il a au PSG aussi. Il faut remettre un petit peu tout ça dans son contexte. Il n'avait pas Mbappé, il n'avait pas Dembélé, il n'avait pas les attaquants de pointe qu'on a, il n'avait pas le banc que nous avons. Donc, non, non, moi, je n'étais pas inquiet sur ce football-là parce que Luis Enrique au Barça mettait énormément de buts, hein, même si son trio d'attaque était impressionnant. Mais on a aussi un trio d'attaque impressionnant avec un banc qui est très intéressant. Donc voilà, non, pas étonné du tout. Pas étonné du tout. Moi, c'est un profil de coach qui me plaît. Et c'est pour ça que sa première conférence de presse, si on va vraiment dans ce qu'il a dit et ce qu'il met en place, c'est qu'aujourd'hui, il lui préfère gagner un match 5 à 4 qu'un 0. Et ça se caractérise sur le football que l'on voit depuis le début de la saison, où il est vrai que sur certaines rencontres, on a beaucoup d'occasions, mais on en concède aussi parce que forcément, un football offensif et attrayant laisse un peu plus d'espace qu'un football, on va dire, à la Simeone ou à la Mourinho. Mais moi, je prends du plaisir devant ce PSG-là offensif et qui plus est, où on s'embêtait ces dernières années.
Je te trouve un peu gentil, mais on reviendra dessus si nécessaire. Fabrice, toi, est-ce que tu penses que justement cette même une période de disette, hein, on avait des matchs où on mettait peu de buts, tout à coup, pouf, on enchaîne les 3 buts au moins en Ligue 1. Est-ce que tu penses que c'est parti pour durer, tout simplement?
Bah, j'en sais rien, mais après, je pense que ce qui s'est passé en début de saison, c'est qu'il y avait beaucoup de tâtonnements. Il y a eu énormément de changements dans l'effectif, un nouvel entraîneur avec une nouvelle philosophie, et puis cette volonté de tout de suite, il l'avait dit, de jouer un beau football. Maintenant, il suffit pas de le dire, il faut que ça se matérialise, ça prend du temps. Alors, je l'ai déjà dit dans un space, je sais plus où, que voilà, la patience, c'est pas la première qualité d'un supporter. On m'était un peu tombé dessus d'ailleurs parce que les gens avaient pensé que je dise ça personnellement, spécifiquement par rapport aux supporters du PSG, mais je pense que tous les supporters sont un peu comme ça, on veut des résultats tout de suite. Mais voilà, je pense que le PSG a besoin d'une certaine stabilité pour justement mettre en place une philosophie de jeu qu'on n'avait pas forcément ces dernières saisons. Il y a eu des résultats, il y a eu des trophées, parce que Paris a de très grosses individualités, et on est tous très contents de gagner. On est tous très contents de gagner. Maintenant, on veut aussi, je parle un petit peu pour moi là, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on veut aussi que les gens disent, ah ok, le PSG, bah, c'est comme ça qu'ils jouent, on sait pourquoi ça joue comme ça, etc., etc. Mais tout ça prend du temps. Donc ce qui s'est passé en début de saison, c'est que je pense qu'il y avait un petit peu de tâtonnement, il y a eu du flottement par rapport à certains joueurs, est-ce qu'ils allaient partir, rester, c'est le lot des mercatos, c'est comme ça. Il a fallu mettre un petit peu de temps, hein, il a fallu un petit peu de temps pour que tout se mette en place. C'est en train de fonctionner. Maintenant, il faut que ça perdure, et c'est ça le plus dur, je pense, c'est de perdurer dans le foot. Maintenant, voilà, on s'habitue vite à marquer 3 buts par match, et dès qu'on met pas 3 buts par match et que tu perds, bah, tu as l'impression que c'est la catastrophe et que c'est la galère et tout. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense, mais. Je pense que pour que ça perdure, il faut que tous les joueurs se sentent impliqués et que tout le monde soit logé à la même enseigne et tire dans le même sens, quoi.
Ça a l'air d'être une belle qualité d'Enrique. C'est un virage qu'il a vraiment réussi à mettre en place, je trouve. Tonton,
Bah,
je te
il a,
laisse
alors,
enchaîner.
juste entre
Vas-y,
parenthèses,
vas-y,
vite
vas-y,
fait, Luis Enrique, pour l'avoir vu bah, en vrai, hein, véritablement,
vas-y.
puis moi j'ai connu plusieurs entraîneurs, j'ai Blanc, Emery, Pochettino, Galtier. Luis Enrique, c'est un mec un peu fou. Il est fou de football, il est fou dans sa manière de travailler, il a des certitudes. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui. C'est un peu comme ça et pas autrement, mais dans le sens où il saura s'adapter sur le terrain, il n'y a pas de souci. Mais il a des préceptes et une philosophie de jeu à laquelle il est extrêmement attaché et qu'il veut mettre en place. Donc il va se donner tous les moyens pour le faire. Voilà, c'est un mec qui a une sacrée poigne, je peux vous le dire. Et voilà, j'avais fait une préconf avec lui. Ah, il est content, il est gentil, il te serre la main, il dit bonjour et tout, mais tu sens qu'il a autre chose à faire que de blablater, il a envie d'aller travailler, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais.
D'accord. Je te laisse enchaîner, tonton.
Je te laisse reposer la question parce que tu as changé le sujet du coup, et comme j'écoutais Fabrice.
Bah, le sujet, mais à l'arrivée, ça revient en même. C'est est-ce que le PSG est lancé? On a eu, c'était un petit peu comme tu sais, une voiture qui était caoutchouteuse, tu sais, peu, comme si tu essayais d'atteindre la voiture, enfin, la pompe à essence. Puis bon, bah, maintenant, bah, il semblerait qu'en tout cas en Ligue 1, on enchaîne les 3 buts, 3 buts, 3 buts, 3 buts, 3 buts. Est-ce que la machine, elle est lancée?
Je sais pas, genre, je te dirais, c'est un peu comme quand tu achètes une voiture d'occasion qui n'a pas roulé depuis longtemps. C'est-à-dire que tu l'achètes, elle va bien, hein, les pièces vont bien, et tu roules, et en fait, genre, ah, tu l'as pas utilisé depuis longtemps, donc en fait, les pneus, ça va pas. Tu règles le problème, tu continues ta route, et plus tard, ah, il y a un autre problème. Et je pense que pour l'instant, on est confronté à ça. Tu as un début de projet, Luis Enrique vient d'arriver, il y a plusieurs titulaires qui viennent de changer. Je crois qu'il y a cinq titulaires différents cette année sur la pelouse, sur le 11 de départ, ce qui est quand même énorme quand tu fais un nouveau cycle. Tu as 19 départs, je crois, du PSG cet été.
Pas beaucoup, quoi.
Ouais, voilà, une misère. Et vu que Luis Enrique, on aime bien le comparer à Pep Guardiola, vu qu'ils ont environ la même philosophie, même si on sait que Pep Guardiola, ça reste ce qui se fait de mieux, bah, pour tous ces gens-là, je vous invite à revoir la première saison de Pep Guardiola à Manchester City, où il a connu ses galères, où il termine quatrième de Première Ligue. Alors oui, c'est la Première Ligue et pas la Ligue 1 Z, il n'y a pas de problème là-dessus, mais lui-même a dû faire des erreurs et s'en rendre compte. Il avait Kolarov et Clichy comme latéral gauche, il avait Zabaleta et Sagna, il a pris Claudio Bravo qui au début prend 19 buts sur ses 19 premières frappes. Il a eu besoin de goûter un peu à l'échec et après il s'est dit, bon, bah, j'ai recruté Ederson, j'ai recruté Benjamin Mendy, j'ai recruté Kyle Walker. Il a petit à petit refait tout son effectif et au final, Pep, pour arriver à son objectif à City, il a mis 7 ans et plus d'un milliard dépensé. Donc je pense que tu ne peux pas demander raisonnablement à Luis Enrique de faire mieux en moins de temps au Paris Saint-Germain, tout simplement.
Là, on est d'accord. Alors, très rapidement, je voulais revenir sur ces deux messages. Sur bah, tout simplement, enfin, Mbappé, oui, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il en met plein, mais justement, on a beaucoup de buts, comme le rappelait Kev, on a beaucoup de buts qui viennent du milieu, et ça se limite pas à Mbappé. Par contre, il y a quand même un truc, c'est, oh, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tonton, c'est, il faut attendre de toute façon, et comme le rappelait Fabrice, on est toujours à, enfin, quand tu as une victoire, bah, tu t'oublies quelques trucs qui n'allaient pas. Et quand tu as une défaite, bah, tu condamnes quelques trucs qui allaient bien très très facilement. Et ça, bien sûr, il faut toujours se méfier du regard relatif qu'on peut avoir. Mais il y a quand même un truc, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. Même si, en effet, on enchaîne les 3-0, il y a toujours ces difficultés à créer un surnombre devant. Il y a toujours ces trous d'air dans le dos qui sont quand même encore une constante. Et je suis. Pour moi, l'équation n'est pas encore complètement trouvée, même si au niveau des résultats, c'est assez intéressant en ce moment, quoi. Est-ce que quelqu'un voulait réagir? Peut-être Kev, j'imagine.
Ouais, non, je voulais te demander, Fabrice, toi, tu as la chance d'assister à certains entraînements.
Oui.
Comment tu sens les joueurs en termes de réceptivité du message de Luis Enrique, qui doit être, comme tu l'as dit, bien fou, qui doit donner beaucoup de consignes, qui doit être vraiment sur le qui-vive, etc. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Alors, je suis pas dans le vestiaire, donc je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, mais quand on est en bord terrain et qu'on voit l'entraînement, tous les joueurs sont extrêmement impliqués. Luis Enrique, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux joueurs. Il a plusieurs particularités que je connaissais pas, la manière avec laquelle il travaille avec beaucoup avec des écrans, il travaille avec une passerelle, il se met en hauteur pour assister à l'entraînement en hauteur et donner des directives d'un peu plus loin. Donc c'est quelqu'un qui a des méthodes un petit peu différentes qu'on connaissait pas forcément et je trouve que ça sort un peu des sentiers battus et je pense que les joueurs, ils apprécient ça de renouveler un petit peu les méthodes de travail. Alors oui, je pense qu'ils sont tous réceptifs et à l'entraînement, ils sont tous extrêmement concentrés. J'ai vu dans ma carrière au PSG des joueurs qui n'étaient pas forcément concentrés à l'entraînement pour diverses raisons, j'imagine. On a tous des bonnes raisons de ne pas avoir envie de bosser un jour sur deux. Mais en tout cas, là, pour l'instant, oui, ça fonctionne bien. Et puis, Luis Enrique, il a un sacré CV. Les gens savent qui c'est et ils l'écoutent beaucoup quand il parle effectivement.
Ok, merci Fabrice.
Mais du coup, bah ça va être un peu notre Arlésienne, hein. Qui est Fabrice? Nous allons tout savoir sur Fabrice. Et donc, nouvelle question pour Fabrice.
Vas-y, vas-y.
Alors, petit side note, il y a Shiraz qui nous pose des questions, mais t'inquiète pas, ta question a été vue, je la garde pour la fin et je la poserai à la fin. Juste, du coup, on rappelle encore une fois que tu travailles au Paris Saint-Germain et ça ressemble quoi une journée à ton taf?
Alors, j'ai envie de dire que j'ai la chance d'avoir un travail où une journée lambda, ça n'existe pas vraiment. Il y a plein de trucs différents qui arrivent. Alors bon, s'il y a quand même des choses récurrentes. En gros, le lundi, par exemple, on revient sur le match du week-end avec des articles, des vidéos qu'on publie sur le site, etc. On prépare les matchs à venir quand c'est des semaines à deux matchs. Il faut tout de suite se plonger dans la Ligue des Champions. Donc, on crée le contenu pour le match suivant. Donc, que ce soit des interviews qu'on a mis en boîte avant, que ce soit des papiers, des chiffres historiques. On travaille avec Michel Collard. Je ne sais pas si vous voyez qui est Michel Collard, qui est l'historien du club, qui est avec nous, qui est dans les bureaux, que je salue, avec qui je partage beaucoup de café, notamment la machine à café, on discute beaucoup. Donc voilà, lui, il compile des chiffres, des stats, etc. Donc on prépare beaucoup les matchs, les interviews, on prépare les interviews, on prépare nos lives aussi, évidemment, quand on a des émissions. Donc c'est un travail éditorial plus qu'autre chose, avec des petites récurrences qui sont publier des vidéos, publier des articles, etc. Voilà comment ça se passe au jour le jour. Et on a toujours des nouvelles qui tombent, un petit partenariat par-ci, des choses à publier. L'académie, on travaille beaucoup avec l'académie, le e-sport. Donc, on s'occupe de toutes les sections du club et de tout leur contenu qu'on doit publier au jour le jour. Et puis, tu as des périodes un petit peu particulières, comme le mercato, où là, ce n'est pas du tout le même rythme de travail. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin de la tronche. Et ça, c'est assez chouette. Et notamment, la dernière journée du mercato, où on travaille tous, généralement jusqu'à très, très tard, en n'étant pas sûr de finalement travailler. Voilà, c'est un petit peu la petite particularité du mercato. Et je milite auprès de mon chef pour qu'on fasse une émission en direct sur Twitch sur le dernier soir du mercato pour accompagner les gens en direct depuis la factory.
C'est incroyable.
Voilà, maintenant, avec
En plus, tu peux négocier un petit... Tu peux négocier un petit ah et puis le joueur peut faire un petit détour pour faire un petit coucou.
Exactement, c'est mon objectif.
Ça va bap up le truc.
Ça serait top. Hein.
Le mec il va tuer le Twitch game en une minute.
c'est exactement mon objectif. Mais voilà, donc j'essaie de faire ça. Après c'est pas forcément évident pour des raisons de droit, parce que bon, il y a tout le côté légal de la chose. Hein. Quand un joueur signe, c'est parce que je vous parle du service digital qui est là jusqu'à 2h du mat, mais le service juridique, ils sont là très tard aussi, avec beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, c'est pas forcément évident. Mais voilà, une petite émission Deadline Day, ce serait pas mal sur la dernière journée du mercato. Ouais.
Très rapidement, moi, il y a pas mal de gens qui te découvrent et qui te kiffent. J'aimerais bien prendre un café, inviter de marque et tout ça. Je vous ai. Hop. Puis il y a cette question, c'est qui ton chef ?
Eh ben c'est le. Alors son titre, son intitulé de poste, je sais plus parce que c'est de l'anglais, du français, je sais plus. Anthony, qui est le chef du digital. C'est le Chief Digital D'accord. Officer du PSG. Voilà.
Et je vais laisser Tonton enchaîner avec la prochaine question qui porte sur la trêve. Alors attends, je relis l'intitulé de la question pour me souvenir, parce qu'avec ma mémoire, oui, mais bon, on est en effet à la troisième trêve en 3 mois. C'est beaucoup. Est-ce que t'en as ras-le-bol? Et puis au-delà d'en avoir, est-ce que ça t'emmerde ou pas? Quel impact pour toi ça a sur la progression de l'équipe et sur la capacité de l'équipe à poursuivre la route qu'ils avaient tracée? Ou je m'en mêle, mais t'as compris la question, je pense.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis pas étonné dans le sens où c'est une année où tu vas avoir et la CAN, et la Copa, et l'Euro. Donc forcément, tu vas avoir des matchs, tu as encore des matchs de qualification, bon, ça vient de se terminer, mais tu as encore des matchs de qualification pour l'Euro, tu as encore des matchs pour la Copa, tu as des matchs pour la CAN, pareil, ça s'est terminé il n'y a pas longtemps, tu as la CAN en janvier, tu as l'Euro en juin, juillet, et pareil avec la Copa América. Donc forcément, ces compétitions-là, même si on a eu la Coupe du Monde il y a seulement un an, parce que pour le coup, c'était il y a littéralement un an au Qatar, c'était pas en été, c'était il y a un an, là en fait, je suis pas étonné par cet enchaînement. Certains pourraient être embêtés, notamment moi, c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan du foot de sélection, j'en regarde vachement moins que du foot en club. Mais c'est aussi une occasion de voir certains joueurs dans un autre contexte. Je veux dire, quand Achraf Hakimi était en difficulté au PSG, on était bien content de le voir briller au Maroc, par exemple. Donc oui, ce n'est pas forcément ce qui m'amuse le plus, mais je peux le comprendre, une année où tu as des trophées majeurs sur quasiment tous les continents en fait.
Et pour toi Kev, et au-delà de ça, est-ce que pour toi c'est un impact sur la progression du groupe? Parce que mine de rien, on a eu 3 coupures de 15, entre 15 jours et 3 semaines en 3 mois, quoi. C'est pareil.
Moi, pour ne pas te mentir, toutes ces trêves internationales me font chier. Je suis désolé, mais à un moment donné, il y en a de plus en plus. On en demande de plus en plus sur des déplacements de plus en plus lointains. Au jour d'aujourd'hui, on est le 14 novembre, il y a déjà eu 3 trêves internationales. On rentre dans la troisième plutôt. C'est des trêves qui durent quand même 2 semaines. Dans un effectif comme le PSG où tu sais que tu as 80 à 90% de ton effectif qui est sélectionné en équipe nationale ou bien même avec les équipes espoirs, tu te retrouves en fait pendant 15 jours à entre guillemets faire un travail plus ou moins invisible et ne pas avoir de suite logique. Donc ça me dérange, notamment le fait que les trêves soient de plus en plus il y a de plus en plus de matchs en trêve. Avant il y avait un maximum de 2 matchs. Maintenant, il se peut que certaines sélections aient 3 matchs. Donc ça me gêne. Ça me gêne parce que j'insiste. Les joueurs ne sont pas des robots, ils gagnent très bien leur vie, on aimerait tous être à leur place, mais à un moment donné, le corps humain est fait de certaines choses et on se retrouve à chaque fois, merci l'ami, on se retrouve à chaque fois dans des situations où on joue en plus le vendredi soir sorti de trêve parce que nous avons Ligue des Champions, on fait des matchs qui ne sont pas terribles, on perd des points et derrière, tu te retrouves à jouer un match aussi important en Ligue des Champions sans pouvoir l'avoir travaillé en amont, ça me gêne. Ça me gêne, ce calendrier, pour moi, n'est pas forcément le plus adapté à un projet comme le nôtre actuellement, où tu es dans un renouveau et où ton coach a besoin de continuité à l'entraînement, de bosser vraiment jour après jour, quoi.
Vas-y, tonton, et après, je laisserai Fabrice enchaîner.
Si je peux me permettre de terminer sur le sujet, le seul avantage qu'on a sur ces trêves par rapport aux années précédentes, c'est que il faut dire ce qui est, les joueurs qui rentrent le plus tard sont les joueurs sud-américains parce qu'ils jouent souvent le mardi, mercredi soir, il y a le décalage horaire, on joue le vendredi. Et là, cette année, par
on
chance,
en a un peu moins.
Voilà, même s'ils sont très importants, il n'y a que Ugarte et Marquinhos, alors que l'an dernier, tu rajoutais du Paredes, enfin, même s'il a été prêté, tu rajoutes du Paredes, avant tu rajoutais du Neymar, tu rajoutais du Messi, tu rajoutais du Icardi, du Di Maria, t'étais vachement plus dépendant en fait de tes Sud-Américains. Et même au niveau de la CAN, on ne sera pas tant handicapé que ça en fait cette année quand il y aura la CAN en janvier. Donc j'ai l'impression que sur ce point de vue-là, je te dirais pas que le club a été intelligent, parce que j'en sais rien, peut-être que c'était pas l'objectif, je travaille pas au club. Mais si ça a été pensé comme ça, en tout cas, ça a été pensé très intelligemment.
Je vais s'enchaîner à Fabrice.
Ouais, alors bon, nous, ça impacte un petit peu notre travail, hein, les trêves internationales. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant de commencer l'émission. On a tous les joueurs qui sont internationaux qui partent avec leur sélection. Donc nous, à partir de là, on ne les suit plus. On a juste fait un petit truc spécial pour Warren, là, qui est arrivé à Clairefontaine. Donc on a une des cams qui l'a suivi jusque là-bas. Mais sinon, voilà, on ne s'occupe plus en gros de ce qu'ils font. On s'occupe des autres sections beaucoup et puis on prépare un petit peu ce qui arrive ensuite. Moi, j'aime bien le football international, donc je le suis quand même. Et puis nous, ça nous fait des petites respirations. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord avec
Kev. Tu n'as pas le même point de vue, toi, tu travailles dedans. C'est pas
non.
Inévitablement, tu as un regard qui est différent que celui du supporter qui attend son d'une certaine enfin j'allais dire sa dose, mais tu enfin il y a quelque chose comme ça, alors que toi tu es un petit peu comme le restaurateur, des fois tu es content de manger chez toi, quoi.
C'est un petit peu ça, voilà, c'est une très belle image, c'est un petit peu ça, ça fait du bien de respirer un peu. Et puis moi, le PSG, j'ai le nez dedans tout le temps, donc c'est vrai que voilà, ça me fait une petite respiration. Mais je suis d'accord avec Kev par rapport au calendrier. Le calendrier, c'est un petit peu n'importe quoi, il y a de plus en plus de matchs et les mecs rentrent tard, le décalage horaire, et puis quand tu joues en Champions League, il faut que tu joues le vendredi, donc les mecs qui jouent, je crois que Marquinhos et Ugarte, ils jouent mercredi matin, heure française, 1h du mat, leur qualif pour la Coupe du Monde. Marquinhos, en plus, il va en Argentine, il reçoit l'Argentine, il va en Colombie, donc ça fait quand même des sacrés voyages, des gros matchs, donc c'est pas forcément évident. Donc lui, il va revenir jeudi, en gros, ou mercredi fin de journée, il s'entraînera pas avant le jeudi, je pense. Et le match le lendemain. Donc, est-ce que, voilà, bon, maintenant, les joueurs, ils sont presque habitués, mais il y en a quand même quelques-uns qui se plaignent, hein, du calendrier. Je pense que ce n'est pas des machines, comme tu disais tout à l'heure.
Ça se voit. Hein. Tu prends un joueur comme Ugarte, par exemple.
Tu as
l'impression que ça lui a coûté cher, lui, certains déplacements.
C'est sûr.
Et c'est depuis la dernière trêve internationale qu'il a un coup de moins bien aussi, faut le rappeler.
Complètement. Et là, quand tu parles du fait d'avoir un match 3 jours avant, en pleine nuit, avec un vol d'une dizaine d'heures, inévitablement, quand il va revenir,
plus compliqué, c'est sûr.
Et il y a d'autres questions. C'est et là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce constat. C'est qu'on a créé une situation pour que les joueurs jouent moins, et à l'arrivée, ils jouent autant, voire risquent de jouer plus. Et c'est très très vrai, et c'est un problème. Et comment font les autres pays? Fabien, j'ai envie de te dire, ils sont dans la même merde, et encore plus.
Non, mais t'as
encore
son...
plus en Angleterre, qui eux.
On parle de Drias, on parle du PSG parce que nous sommes supporters du PSG, mais je serais supporter de n'importe quel autre club dans n'importe quel autre championnat, je dirais la même chose au jour d'aujourd'hui, et ça ne va que s'empirer, parce que quand tu vois que ça commence à discuter de matchs de Ligue 1, de Liga, de Première Ligue en Amérique, en Chine, délocaliser entre guillemets certaines rencontres pour un aspect financier, au niveau de tout ce qui est, on sait très bien, droit TV, etc.
Mais la Coupe du Monde des clubs.
Exactement, il y a plein de choses.
La Coupe du Monde des clubs qui va arriver, où ils rajoutent énormément de clubs. Donc ça fait une Coupe du Monde, une vraie Coupe du Monde à l'été, tous les ans.
Voilà. Si on ne va pas commencer à parler des réformes potentielles et à venir de Ligue des Champions, parce que sinon on en sort.
Ça risque d'être de plus en plus difficile.
Oui, non, mais ça,
et on va devoir avoir des effectifs de plus en plus conséquents aussi, parce que malheureusement, les joueurs ne pourront pas assumer tous les matchs.
mais on pourrait faire presque un podcast sur ce exactement, sujet-là, tellement le calendrier, c'est quelque chose qui a évolué et que tu apportes en fait des pseudo-réponses pour augmenter par ailleurs. Enfin bon, c'est à s'arracher les cheveux.
Je suis un peu éloigné du sujet
à l'heure actuelle. Mais par contre, on a un petit moment 36-15. Qui est Fabrice ? Parce qu'on va peut-être à terme, ben, j'aurais plus de questions, mais ça va, j'aurais plus de vannes pour les introduire, donc on sera au poil. Et celle-là, elle va vous faire plaisir. Il y a pas mal de questions qui sont passées côté Mercato, mais c'est pas à toi que je pense qu'il faut poser ces questions-là. Donc je vais même pas. Enfin, dans ce cas-là, on les gardera pour la fin, je te les demanderai. Si tu veux. Mais juste là, à l'arrivée, tu as rencontré Néné, tu as rencontré pas mal de joueurs, tu as rencontré Lucho, tu nous le disais tout à l'heure. C'est qui t'a le plus impressionné?
C'est assez difficile de répondre à cette question, je trouve, parce qu'il y en a quand même pas mal. Le premier, c'était Zlatan. Zlatan, en gros, la première fois que je suis allé au camp des loges et que je suis allé manger à la cantine du camp des loges, donc c'était un peu nouveau pour moi, j'étais nouveau, je faisais un peu gaffe et tout, et je bouffais, j'étais en train de manger mon plat de pâtes, je ne sais pas quoi, avant qu'on aille faire une interview de je ne sais plus qui. Et en fait, la règle là-bas, c'est que tout le monde dit bonjour à tout le monde, il n'y a pas de problème. Tout le monde se comporte de manière évidemment très citoyenne, il n'y a aucun souci. Et j'étais en train de manger quand tout d'un coup, quelqu'un me tape sur l'épaule et j'entends bonjour. Je me retourne et il y avait Zlatan qui était là. Je suis plutôt grand, je fais 1m85, je suis plutôt gros et tout. Zlatan, il m'a éteint. Il était gigantesque, impressionnant. Il m'a tendu une main pour me serrer la main. C'était, on aurait dit, un parpaing, son truc. C'était assez impressionnant. Donc lui, il m'a vraiment impressionné par cette espèce de prestance, cette grandeur. Et puis, il me faisait flipper, en fait, parce que tu entends tout et n'importe quoi autour de Zlatan. Moi, mes collègues me disaient, oh, putain, Zlatan, à l'entraînement, il nous a fait ça, assez chambreur et tout. Donc, je m'attendais à ce que, je sais pas, il me mette un coup de pied direct. Bon, il l'a pas fait, mais en tout cas, voilà, c'était assez impressionnant. Et puis, sinon, alors, j'ai envie de dire Buffon. Buffon m'a beaucoup impressionné par son charisme. Alors, il a pas forcément laissé une grande trace dans l'esprit des supporters, mais. C'est un gardien légendaire, véritablement, qui a tout gagné, ou presque. Et quand il est arrivé, on a fait des trucs un peu de dingue. On lui avait réservé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce contenu-là, il rejoignait les locaux de la factory en voiture et il y a eu toute plein de Vespa. On avait loué des Vespa avec le drapeau italien. On l'avait suivi, on lui avait fait une surprise et tout. Puis j'avais fait un live Facebook en français, en anglais, pour suivre la bagnole de Buffon qui arrivait jusqu'à la facto. Donc voilà, c'est des moments comme ça. Et donc lui, il était grandiose, ce mec, gentil et extrêmement charismatique. Ça m'a beaucoup marqué. Mais il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, pour un fan de foot, un fan du PSG, voilà, et puis des anciens aussi, tu rencontres des anciens. J'étais comme un dingue quand j'ai rencontré Pancrate. Tu vois, c'était, pour moi, Pancrate, c'est quelque chose. Donc, voilà,
justement, ça rentre peut-être dans la question qui nous est posée. Le joueur le plus jovial que tu aies vu, toi?
Jovial, bah, Presco, il est quand même assez dingue. Lui, en joueur actuel, lui, il est top. À chaque fois qu'on fait des interviews avec lui, c'est chouette. Il est content de nous voir, il nous fait des blagues et tout. Presco, il est très sympa et tout le monde l'aime beaucoup. Pancrate est fou. Bernard Mendy, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est des mecs assez sympas, ouais.
Nanar, la grande époque, Roberto Carlos, c'est des centres au 8e poteau, mais en même temps,
ça, ouais,
le mec qui représentait le Paris Saint-Germain, mieux que quasi n'importe qui dans cette époque, maudite en termes de résultats, mais tellement, tellement dans le plaisir en termes de supporters. Mais bon, ça c'est pour les anciens seulement, parce que mine de rien, ça remonte un tout petit peu. Alors, très rapidement, avant de poser la suite de la question, 48 minutes, on a pas mal de gens qui sont avec nous, vous êtes avec nous depuis 50 minutes, donc c'est que vous kiffez le moment. Lâchez votre petit like. Nous, ça nous aide pour le référencement. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Surtout qu'on vous propose des formats longs. Donc, on part avec un désavantage par rapport à tous les formats très courts. On part avec un désavantage. Et ce qui nous permet de compenser ça, bah, c'est le nombre de likes, le nombre d'abonnements qu'on a. Donc, likez-nous, abonnez-nous. Ça fait 50 minutes que vous êtes encore avec nous. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà fait. Hein, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui hésitent à le faire, oui, encore, on nous demande un like et tout. Bah, juste, c'était nous. Ça fait 50 minutes. Vous passez un bon moment. Donc faites-le. Et Fabrice, du coup, allez, c'est quoi ton meilleur moment depuis que tu es au PSG?
Alors, on me l'a déjà demandé cette question et j'avais répondu, je crois que c'était dans un des Max Space, j'avais répondu Neymar, l'arrivée de Neymar. C'était un moment dingue de travail en tant que supporter. Alors, pour la petite histoire, donc c'est l'arrivée de. Non, c'est pas l'arrivée d'Unai, c'est le deuxième été. Attends, que je ne raconte pas de conneries. Deuxième saison d'Unai. On est à Miami en tournée. J'étais sur la tournée là à Miami et on fait l'ICC, etc. Et quand on est à Miami, il y avait aussi le Barça et le Real qui étaient pour l'ICC aussi, je crois. Et il y avait un match amical à Miami entre le Barça et le Real. Donc il y avait du monde, un petit peu d'effervescence autour de tout ça, et nous, on commençait à entendre en interne que potentiellement Neymar pouvait arriver au PSG. Donc on n'y croyait pas trop, on ne savait pas trop sur quel pied danser, puis plus ça allait, plus ça devenait réel. Donc déjà, tu es un peu comme un dingue de dire que tu vas te signer Neymar, c'est complètement fou, ça va être génial, etc. Et niveau travail, c'était grandiose, et le jour de son arrivée, donc nous, on n'a pas dormi pendant 3 jours quasiment pour préparer tout ce qu'il y avait préparé autour de sa venue. On a envoyé des mecs à Barcelone partir avec lui, etc. Enfin, on a filmé énormément de choses. Et le jour de la présentation au Parc des Princes, donc il a été présenté contre Amiens en championnat, mais il y avait eu un passage au parc avec les ultras qui étaient venus devant le parc. Ça avait été un merdier pas possible. J'essaye d'expliquer, j'ai du mal à trouver les bons mots, mais le club était très préparé. Mais peut-être pas assez par rapport à comment ça s'est passé, en fait, tellement c'était énorme. On avait 1 milliard de trucs de prévus à faire dans la journée et on n'en a pas fait la moitié, tellement c'était compliqué. Des interviews, des photos, des trucs, des machins, énormément de trucs. Donc, l'arrivée de Neymar, c'était quelque chose de grandiose. C'est moi qui ai appuyé sur qui ai cliqué pour publier la vidéo de l'annonce de l'arrivée de Neymar. Et c'est moi qui ai publié le communiqué de presse de son départ. Donc j'ai eu
Tu avais le doigt qui
il y
tremblait.
avait un petit truc, ouais, ça faisait étrange parce que ça faisait quand
La
même
nostalgie.
la nostalgie, l'histoire qui se termine, elle se termine comme elle se termine. Bon, c'est comme ça, mais ça m'a fait un petit truc parce que voilà, c'était quand même quelque chose de grandiose. Ouais.
Et alors, très rapidement, toi, t'étais plus là, t'étais pas encore là, je veux dire, quand il y avait Pocho, ou tu l'as connu en
Si,
tant
si, je l'ai
que.
connu. Alors, je crois qu'il est parti. Moi, je suis arrivé en octobre et il est parti en janvier, il me semble. Donc, je l'ai très peu vu jouer, Pocho. Et il est parti fin janvier de l'année où je suis arrivé. Si, si. J'ai vu la question
Vous n'avez pas eu le temps de développer une intimité pour qu'il te fasse une mauvaise blague, quoi, encore.
Alors, si, si, si. Mais parce qu'il fallait pas développer beaucoup d'intimité avec Pocho pour qu'il fasse des blagues. Hein. Je pense que lui, c'était assez direct. Mais ouais, non, c'était un sacré personnage. Il a fait des trucs, voilà, à l'entraînement. En fait, au final, les joueurs, c'est des mecs qui ont généralement moins de 30 piges et qui sont sympas et qui sont rigolos, quoi. Donc ils chambrent, ils font des blagues et tout. Pocho était très sympa, oui. Je vais pas les raconter. Je les garde pour moi, je les garde pour mes mémoires peut-être, mais
J'imagine,
des trucs
j'imagine.
assez
Tu as bien
rigolos dont
raison.
vous pouvez imaginer la teneur.
C'est genre,
Il y
il
en a
faut que tu
quelques-unes
attendes
qui
une
ont fuité
vingtaine
déjà, tu
d'années
me diras.
pour que toutes les personnes impliquées n'aient pas trop envie de porter plainte, etc., etc., parce que ça va assez loin.
Voilà,
On peut imaginer
exact.
sans souci. On va revenir foot, on va revenir foot et on aura un dernier moment 36-15 et il y a pas mal de moments 36-15 qui sont passés dans le chat. J'en noterai et je poserai les questions à la fin. On verra si on peut y répondre. Juste Asensio et Kanginli. Asensio, tout le monde le demande. Tout le monde est tous là. Bon, bah, il nous faut Asensio, il nous faut Asensio. Puis là, il y a Kanginli qui arrive et qui apporte des réponses. Et si on mettait les deux sur le terrain, tu ferais comment, toi, tonton?
Excuse-moi, je t'ai pas entendu.
Ben, si on met Asensio et Kanginli sur le terrain, tu fais comment?
Bah, en soi, Asensio, tu le fais jouer faux neuf en ce qui me concerne. Kanginli, tu le fais jouer sur l'aile droite en tant que meneur de jeu excentré. Du coup, ça voudrait dire que Mbappé joue à gauche dans un rôle de finisseur.
Tu vois, ok, bah Fabrice, est-ce que tu verrais un autre système pour pouvoir associer les deux qui te semblerait idoine?
Après, Asensio, il peut jouer à plusieurs postes, hein, et c'est pareil pour lui. Donc, en fait, au final, c'est en fonction des besoins, des potentiels absents. Après, je pense que Luis Enrique sait aussi s'adapter par rapport aux adversaires et puis l'histoire d'un match, ce dont tu peux avoir besoin pendant un match. Moi, oui, Asensio peut jouer en faux neuf. Et Lee, je le trouve bien au milieu de terrain, hein, aussi, dans un milieu à trois, parce que il est suffisamment technique pour casser des lignes. Parce que au final, t'as, bon, Warren est un peu créateur. Un peu créateur. Ugarte, pas pas trop créateur, mais qui sait récupérer des ballons, qui peut jouer haut, etc. Et si tu rajoutes Lee dans ce milieu de terrain-là, bah, tu as un créateur, un espèce de... On parle beaucoup de faux neuf, mais pourquoi pas un faux 10, quoi. Un mec qui sait aussi distribuer des ballons, casser une ligne en faisant 10 mètres très vite. Voilà, pourquoi pas le voir dans ce système-là.
Tu peux même l'appeler faux 8, vu comment il défend, ça marche aussi.
C'est vrai, oui, c'est vrai.
Je te laisse y aller, Kev.
Ben, moi, concrètement, je mets Asensio en 9 et Kangin Lee à la place de Vitinha, hein, point final. Hein. Et pour moi, tu as un équilibre qui peut être quand même très intéressant, en sachant que les meilleurs matchs de Lee l'année dernière à Majorque sont positionnés en tant que numéro 10. Donc, c'est quand même un joueur qui a une grosse débauche d'énergie, qui peut compenser beaucoup le manque de présence défensive de Kylian sur son côté gauche. C'est un gars qui peut... J'ai l'impression aussi qu'il a une très bonne relation avec Kylian. Ça, c'est très important.
C'est ça que j'ai envie de dire, ouais.
Donc en fait cette petite connexion qu'il y a, que ce soit à l'entraînement sur certaines images que l'on voit, etc., ça c'est important pour le bien d'une association ou d'une doublette. Donc jouer vraiment relayeur gauche sur Kangin, ce qui permet de laisser ce trio Hakimi, Dembélé et Warren à droite, peut permettre à Mbappé d'avoir cette connexion. Et c'est vrai que Mbappé avait quand même fait des matchs plutôt intéressants en début de saison quand Asensio était là, parce qu'Asensio est un joueur intelligent et qui plus est, a une palette que l'on n'a pas beaucoup. Il est capable de marquer de n'importe quel endroit sur le terrain, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire débloquer une situation sur des matchs un peu fermés, parce qu'il a quand même une très, très, très grosse frappe de balle, Asensio. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, et Kangin, force est de constater aussi que c'est un joueur qui marque des buts, qui a une très bonne patte gauche, et qui plus est, sur coup de pied arrêté, les tire plutôt bien. Chose qui n'était pas forcément notre qualité depuis le début de saison, il les tire plutôt bien. Même si Luis Enrique l'avait dit, voilà, on ne travaille pas les coups de pied arrêtés pour le moment, on a autre chose à travailler, ce que j'entends totalement. Mais voilà, cette association peut être intéressante à voir sur l'équilibre et défensif et offensif, si ça peut permettre de tourner ensemble.
C'est la problématique justement, parce que moi, quand tu nommes ça, je rêve de voir ça en fait avec Nuno. Mais le problème, c'est que si t'as Nuno, t'as Nuno qui a des responsabilités offensives, Kangin et Mbappé sur, parce que c'est, on connaît hein, l'entendre Nuno et Mbappé, elle est plus à démontrer, elle était déjà là l'année dernière. Effectivement, comme tu le dis, c'est entre Kangin et Mbappé, bah elle est très prometteuse. Et tu mets Nuno qui s'adapte à tout le monde dans le truc, ça peut donner quelque chose. Je finis, après je te laisse la parole, tonton. Ça peut donner quelque chose de super intéressant. Après, la problématique, c'est que si tu fais ça, comment tu fais de l'autre côté avec Hakimi? Mais en tout cas, moi, c'est vraiment un trio que j'aimerais voir. Je te laisse continuer, tonton.
Justement, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux latéraux, moi, je pense que si Nuno revient, il mettra et Nuno Mendes et Hakimi en même temps. Parce que c'est ce qu'il faisait déjà avec le Barça, c'est ce qu'il a fait avec la sélection espagnole. En soi, il préfère avoir des latéraux offensifs, sauf que là, bah, tu te rends compte qu'il fait avec ce qu'il a. Au final, Nuno Mendes est absent, donc il compte sur la polyvalence de Lucas Hernandez qui est capable de jouer arrière-gauche. Mais pour moi, Lucas Hernandez sera un défenseur central titulaire aux côtés de Marquinhos, dans le sens
où il a la
capacité technique que demande Luis Enrique pour jouer défenseur central, Lucas Hernandez, mais il n'est pas assez offensif pour un latéral gauche, parce que ça reste un défenseur. Donc du coup, je pense que dès que Lucas Hernandez se réaxera dans la défense avec Marquinhos, tu pourras jouer avec les deux latéraux offensifs, parce que tu auras ces deux mecs en défense derrière. Et tu auras Ugarte qui pourra toujours s'intercaler derrière aussi.
La grande problématique avec ce que tu dis, c'est que tu te retrouves avec deux centraux et les ailes qui ne sont pas couvertes, et donc ça veut dire que tu as Ugarte qui descend limite d'un cran en fait.
Justement, c'est selon les phases de jeu. Ce sera comme cette année. Il y a des moments, enfin cette année. En l'absence de Nuno Mendes plutôt. Regarde, en l'absence de Nuno Mendes,
on n'est pas encore les gars. Voilà, parce que Nuno ne reviendra pas avant mars.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire vis-à-vis de ça. Regarde, Lucas Hernandez, il y a des moments où c'est lui qui monte et du coup, Ugarte, il redescend. Et des fois, bah, Lucas, il reste au même cran que Skriniar et Marquinhos. Et du coup, Ugarte peut jouer plus haut.
Oui, mais tu as la perte de balle. C'est, pour moi, c'est un peu simple dans le sens où tu as une perte de balle, et notamment une perte de balle qui est haute. Si tu as ce positionnement-là avec les deux latéraux qui sont montés, tes deux centraux et ton 6 qui est en train de chasser haut, bah, la perte de balle, tu es juste complètement à poil, en fait. Et une des raisons pour lesquelles tu avais Hakimi qui était aussi offensif, c'est explique aussi par le fait qu'on avait un Lucas Hernandez qui permettait de compenser et justement d'avoir un minimum de la couverture de la largeur derrière. Et si tu es juste avec deux derrière, tu vas au casse-pipe, à moins que tu aies un 6 comme Rodri qui reste effectivement derrière. Donc pour moi, dans ces cas-là, tu mets Ugarte derrière. Enfin bon, après, ça pose tout un tas de problèmes, mais je ne suis pas sûr que ce soit si simple à mettre en place que ce que tu énonces en tout cas. Pardon.
Bah, moi, je reste, tu vois, dans l'idée où je suis Cédric, tu vois.
Ok. Mais il avait d'autres milieux. Et il avait des milieux notamment qui jouaient très bas, mais qui étaient très bons balle au pied, etc., qu'on n'a pas forcément en stock.
C'est là où il va falloir peaufiner sur les prochains mercato.
On n'a pas l'effectif au milieu pour te permettre de jouer avec deux centrales en demandant à tes deux latéraux d'aller chasser les ailes.
Il n'allait pas avoir toutes les réponses à toutes ces problématiques en un mercato. Aucun club ne résout toutes ces problématiques en un mercato, et ça n'allait pas arriver au PSG avec un nouveau projet, un nouveau coach. Bon, c'est logique.
Ceci dit, il a parfaitement raison, comme le rappelait Kev, c'est de l'emballage pour pas grand chose, mais c'est Nuno. Mais après, moi, Nuno, moi, c'est tellement mon joueur que je suis obligé de le placer d'une manière ou d'une autre. Quoi. On avait tout un tas de questions. Il y en a une de Shiraz qui était importante peut-être. Alors, je ne sais pas si ce serait parler de Mbappé, mais Shiraz, je suis désolé, on ne va peut-être pas avoir le temps d'aborder ce sujet-là parce qu'à mon avis, ça peut faire l'objet d'un live, mais on garde ça en tête. Et la question, c'était est-ce qu'on jouerait mieux sans Mbappé ? Et ça demande trop de développer, donc ça là on va pas pouvoir forcément y aller. Alors déjà il y a les questions, genre le dernier moment 36-15 avant les questions, c'est 36-15 version Twitch, du coup Twitch YouTube, on est passé 36-15, c'était avant, maintenant c'est la version moderne. C'est quoi ta vision du foot toi Fabrice du coup ? Est-ce que tu es plus pour un foot de possession, de transition, hybride, comment est-ce que tu le situes ?
Alors j'ai remporté la Ligue des Champions sur Football Manager à plusieurs reprises en pratiquant un football très offensif. C'est vrai, mais blague à part, moi j'aime le football spectaculaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui aiment le football extrêmement défensif, rugueux, rude. Je pense que le football a beaucoup évolué et tend vers un football encore plus total que ce qui a été inventé dans les années 70. Je pense que c'est très difficile de gagner des compétitions sur la durée. Une Coupe du Monde, un tournoi un peu court, tu peux peut-être faire encore faire ça, mais on a envie de voir des matchs où il se passe quelque chose. Donc pour le PSG, moi j'ai envie de voir, on se rapproche plus de ce que j'aime avec Luis Enrique, de ce qu'on a pu voir sous d'autres entraîneurs par exemple. Donc oui, la possession, oui, mais presser haut, ne pas laisser la balle à l'adversaire. Voilà, en gros, plus tu as le ballon, moins l'adversaire se créera.
Tu veux faire du Klopp, quoi.
Hein ?
Tu veux faire du Klopp, quoi.
Klopp, ouais, j'aime beaucoup ce que fait Klopp, même si bon, là, il a un petit peu plus de mal. Mais oui, après, bon, c'est une vision du foot et il faut avoir les joueurs pour, quoi. Mais oui, du football où tu presses très haut, tu récupères le ballon très haut et tu te projettes. Voilà, c'est ça. C'est pas tant la possession, le tiki-taka, ça me intéresse un petit peu moins. Récupération haute, projection haute et but. Voilà.
Ça marche. Rapidement, tu as joué au foot, toi ou pas ?
Alors, j'ai assez mal joué au foot, mais ouais, j'ai joué au foot. Ouais. J'étais. Moi, à la base, je suis pas de Paris à la base. Ah non, non, je peux même pas dire ce truc du genre, je me suis fait les croisés et j'ai pas pu devenir pro. Mais non, moi, je suis d'Annecy à la base, donc j'ai joué dans des petits clubs bien bled de la région là-bas. Et j'étais le bouche-trou, j'ai été gardien, j'ai été défenseur central. Voilà. J'ai eu un prime quand même, j'ai eu mon prime.
Après, si tu veux, quand je parlais de est-ce que tu as joué au foot, je parlais pas quand tu avais 8 ans. Hein.
On fait des fives de temps en temps avec les collègues, donc ça m'arrive encore. Mais je crois que j'ai joué jusqu'en moins de 15.
D'accord, quand même.
T'as vu, c'est
mieux que moi.
J'ai été 5. À mon prime, j'étais 5 dans la défense centrale de l'Étoile sportive de Métay dans le 74. Voilà, ça c'est ça vend du rêve.
Oh, la Haute-Savoie.
Alors, on avait quelques petites questions mercato. Est-ce que tu penses qu'on va se renforcer ? Il y a Freddy qui nous demandait, est-ce que tu penses qu'on va se renforcer au milieu cet hiver ?
Je pense que oui, dès qu'il y a un mercato, il y a la possibilité pour... J'ai aucune info et je ne sais pas du tout, mais je pense que c'est fait pour ça, c'est pour ajuster le mercato d'hiver en particulier, c'est pour ajuster les petits manquements. Et je pense que c'est assez évident, entre guillemets, qu'au milieu de terrain, on est peut-être un petit peu juste, même s'il y a un joueur qu'on n'utilise pas beaucoup pour l'instant, qui s'appelle Cheikh Ndour, qui est un très bon joueur, un joueur très technique.
Tu l'as beaucoup vu jouer, toi ?
Je le vois s'entraîner beaucoup. C'est un joueur très technique, il fait beaucoup d'oppositions, des trucs. Il est tout le temps appelé avec les espoirs italiens et il joue. Donc, du coup, ça veut quand même dire quelque chose. Et voilà, peut-être qu'au milieu de terrain, oui, il y aura des petits ajustements à faire. Et puis, tu n'es pas à l'abri d'une blessure hein, de n'importe qui. Donc, tu auras besoin de pallier une blessure. Il y aura des signatures.
C'est ce qu'on entend le plus. On entend beaucoup parler des pistes latérales gauche plus que milieu de terrain pour cet hiver, quoi. Après.
C'est possible parce que, comme disait Kev, voilà, Nono, ce ne sera pas avant mars, avril, donc ça peut. Et il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Donc, effectivement, mais Lucas, pour l'instant, répond présent. Et vous parliez de surprise tout à l'heure. Alors, ce n'est pas une surprise de voir Lucas performer, mais de le voir aussi à l'aise dans cet effectif et la manière avec laquelle il a pu être un petit peu accueilli froidement par les supporters. Je trouve qu'il réalise un très bon début de saison. Il est ultra fiable. Voilà. Donc, bon, j'espère que ça va continuer comme ça pour lui toute la saison, quoi.
Sa problématique, c'est plus les blessures à Lucas Hernandez. Et là, on touche du bois pour une fois.
Pour
Là,
l'instant, on
vraiment, on
touche du
touche du bois.
bois, ça se
Je
passe
pense que
bien.
le staff travaille très bien là-dessus, honnêtement.
Mais il est bien géré, en tout cas. Vas-y,
J'attendrai
Darius.
pour avoir un avis définitif là-dessus au retour de Nuit au moins. Donc on est encore dans les demandes anecdotes. Et justement, est-ce que tu as pu échanger avec Ben Arfa? Est-ce que tu l'as vu à l'œuvre? Est-ce qu'il était
Oui.
vraiment maltraité?
Maltraité? Pourquoi maltraité?
Bah, parce qu'il y avait toute cette rumeur du vestiaire qui ne l'acceptait pas, et notamment les Argentins de mémoire. Enfin, je me souviens qu'il y avait. Enfin, après, c'est la question qui l'induit, mais ça me dit quelque chose, en fait. Donc, c'est
Ça
pour ça
non,
que
moi,
je
ça me dit
l'avais
rien
en
non plus.
tête.
Ben Arfa, il était apprécié par les Daniel Vest, Neymar, parce qu'il reconnaissait comme un mec très technique.
Ouais,
Ok.
c'était. Alors, franchement, j'ai pas le souvenir de ça. Maintenant, encore une fois, je suis pas dans l'intimité du vestiaire, hein, et il peut se passer des trucs dont je suis pas au courant. Mais alors, moi, cette histoire me dit rien du tout. Mais Atem, ouais, Atem, il est particulier comme joueur. Il est un petit peu dans son univers, etc. Mais moi, il fait partie des joueurs pour lesquels j'ai le plus de regrets parce qu'il était tellement fort. Je suis pas très compile vidéo sur YouTube ou machin, etc. C'est pas des trucs qui me font. Voilà. Mais quand tu vois les compiles d'Atem et ce qu'il a pu faire en Angleterre, même en France, quand il était à Lyon, c'était un mec d'une technique extraordinaire et je pense qu'il est vraiment passé à côté de sa carrière, quoi. Mais ouais, il était un peu spécial. Il était un peu spécial. Mais bon, après, pourquoi pas, hein?
C'était un mec particulièrement intelligent en plus. Enfin, en tout cas, si l'intelligence se mesure à la capacité du GCA, il avait un classement qui était très très cohérent aux échecs. Et bon, a priori, c'est quelque chose. Il y a pas mal de remarques qui remontent sur un joueur de taille. Est-ce que c'est votre perception, vous aussi? Est-ce qu'on manque de taille au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il faudrait recruter en taille et dans quel secteur de jeu? Vas-y, tonton.
Moi, je pense que c'est pas qu'une histoire de taille, parce que tu te rends compte que depuis le début de la saison, le point faible du PSG, c'est quand même le jeu aérien défensif. Et du coup, si tu prends juste des mecs qui sont grands mais pas bons dans les airs, je peux t'en citer au hasard, Fabian Ruiz, Khéphren Thuram, on peut les prendre ces mecs-là qui sont grands mais pas bons dans les airs. Mais si tu prends juste des mecs grands parce qu'ils sont grands, ça ne va rien t'amener. Si tu amènes au contraire des joueurs qui sont grands mais qui sont bons dans les airs et qui, bah, justement, t'apportent une réponse à ton problème dans les airs, là, tu vas répondre à cette problématique. Exemple. Un Lenny Yoro, ça a du sens parce qu'il est grand, mais aussi il est bon dans les duels aériens. Il se laisse
Et
pas faire.
justement,
Thiago Silva n'était pas grand et pourtant était excellent de la tête. Hein.
Endo,
Falcao,
il est bon de la
un
tête ou pas,
hélicoptère.
Fabrice?
Je sais pas, c'est pas quelque chose que
C'est
j'ai
pas
vu.
quelque chose
Après,
de
hein?
C'est pas quelque chose qui t'a sauté,
Non, non,
qui
pas
t'a surprise, pas
particulièrement.
du tout.
Après, je vous avoue que le travail en entraînement, c'est beaucoup de balles au sol. Hein. Il y a très peu de. Voilà, c'est un peu le jeu de Luis Enrique aussi, mais effectivement, c'est vrai qu'on ne marque pas beaucoup de buts de la tête. Et puis oui, les ballons aériens, ce n'est pas forcément ce qui nous réussit beaucoup. Donc c'est peut-être un secteur dans lequel il faut s'améliorer, ouais, effectivement. Mais effectivement, juste un joueur de taille pour pallier ça, je ne suis pas sûr que ce soit.
On est très très faible sur les coups de pied, qu'ils soient offensifs ou défensifs, en termes de décisivité. On est très très mal sur ce sujet-là. Il y a clairement un énorme problème de, pas forcément de taille, justement, comme le rappelait très bien Tonton, un problème de savoir prendre la balle de la tête. Et même à Marquinhos
De son
qui
timing.
excellait là-dedans, je finis après je te laisse, qui a Marquinhos qui excellait là-dedans et qui, même cette saison, même s'il y a eu beaucoup mieux par rapport à la saison passée, a encore du mal sur ce secteur. Je te laisse continuer, Kev.
Non, non, c'était juste ça. C'était pour moi être bon de la tête, c'est une question de timing. Il n'y a pas forcément
Oui.
de
Bah,
taille. C'est
comment il
savoir sauter au moment que le ballon va atterrir dans une certaine zone sans faire
s'appelait
le fort.
l'attaquant chilien
Non, c'était
l'attaquant.
Colombien, c'était Falcao qui était incroyable, un
Non,
hélicoptère.
l'attaquant chilien 98,
Salas,
l'hélicoptère.
Zamorano.
Oui,
Zamorano, Salas.
Zamorano. Enfin, je crois que c'est Zamorano, mais qui en gros, qui était un mec qui faisait 1m68 et qui marquait 80% de ses buts de la tête et qui était monstrueux. Et il faisait 1m68. Il faisait 1m68.
Même
Après, pour
Falcao,
les
il faisait
duels def.
1m73. C'est un des meilleurs joueurs de tête que j'ai vu, Falcao aussi, hein.
Oui, mais pour le coup, Zamorano, c'était encore plus ouf. Hein. C'était vraiment encore plus ouf. C'était un petit peu avant. Sinon, y a une Arlésienne qui revient souvent, Naga. Est-ce que pour vous, il doit rentrer dans la rotation? Est-ce qu'il serait nécessaire? Bah, tiens, Fabrice, toi, qui l'as vu à l'entraînement, qui le voit peut-être un peu plus concrètement que nous, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ça?
C'est un très, très bon joueur. Il y a beaucoup de très, très bons jeunes. Hein, et je souligne le très beau travail de Papus Camara, qui est là à la tête des U19 depuis quelques temps maintenant, qui travaille très, très bien avec les jeunes. Je vous invite à suivre, regardez le Made in Paris qu'on fait, qui est une série qu'on fait saison après saison, vraiment pour le coup dans l'intimité du vestiaire, on suit les jeunes et on voit comment ils travaillent. Naga, c'est un bon joueur, il a été bon cet été pendant les matchs de prépa. Maintenant, intégrer la rotation du PSG, c'est très compliqué, hein, parce qu'il y a quand même de sacrés joueurs. Et puis, j'ai envie de dire qu'il faut faire encore plus attention, parce qu'on dit beaucoup, il faut faire jouer les jeunes, il faut faire jouer les jeunes. Bah, en fait, c'est pas si évident que ça, parce que des mecs comme Warren, par exemple, que moi j'apprécie énormément, t'en as pas des milliers non plus. C'est un petit peu unique le cas de Warren. Et il faut pas griller les jeunes trop tôt. Donc voilà, et Warren, il va falloir faire attention aussi, parce qu'il enchaîne les matchs, etc. Il est sélectionné avec l'équipe de France. Déjà, il joue avec les espoirs et tout. Il faut pas griller les mecs trop tôt, parce qu'on en a vu tellement et tellement des jeunes, pas qu'au PSG, hein, partout. Je vais prendre un exemple, comme ils s'appellent les mecs du Barça, là. Il y a Pedri, Gavi, je les confonds un peu toujours. Il y en a un des deux qui a fait 70 matchs sur Pedri. Une année civile. Et le mec, il est pété tout le temps maintenant. Et donc, du coup, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment intégrer des jeunes, c'est pas juste faire entrer un mec dans une rotation, le faire jouer, etc. Parce que tu as la réalité du terrain, mais la réalité de tout ce qui se passe autour. Donc, ce n'est pas forcément une garantie de réussite. Et puis, tu peux cramer un joueur, quoi. Donc, c'est assez compliqué. Donc, Naga, doucement. Doucement, pour moi, je pense qu'il faut faire gaffe.
Kev avait demandé avant. Du coup, Kev, ouais, et après t'en sais le raconte.
Je vais rebondir sur ce que disait Fabrice. Après, la morphologie de chaque joueur est différente. Tu vois, un gars comme Warren, sa morphologie est déjà quand même bien avancée, que ce soit sur un plan physique, sur un plan de pas mal de choses. Tu sens que le gars, en fait, au contact, il aura beaucoup moins de difficultés que des joueurs comme Pedri, qui forcément sont beaucoup plus frêles et vont forcément en fait recevoir des coups qui vont en pâtir sur leurs muscles. C'est sûr. Là où en fait il est très important de juger des joueurs par rapport à leur morphologie et leur jeune âge. C'est pas par rapport à ce que tu disais, Fabrice, hein, mais c'est une parenthèse qu'on a régulièrement nous dans nos podcasts par rapport à des jeunes joueurs qu'on intègre ou pas. Et chaque joueur, en fait, est de manière morphologique différent. Mbappé, faut pas oublier, il a explosé, il avait quel âge, et il a pas raté de match depuis. Hein. Et pourtant, son jeu demande encore beaucoup plus d'efforts sur ses accélérations qui sont quand même impressionnantes. Et regardez la morphologie de Mbappé quand il arrive au PSG et celle qu'il a un an et demi après. Ah, mais oui. Tu passes d'un cure-dent à une bouteille Volvic d'un litre 5. Hein.
C'est sûr. Mais après, Mbappé, historiquement, il y a beaucoup moins de contacts sur lui. Alors, il subit des fautes, mais quand tu es un joueur au milieu de terrain où tu es censé récupérer des ballons et ensuite te projeter, un mec comme Warren, il va encaisser beaucoup plus de coups. Mais comme tu dis, sa morphologie est différente. Mais... Donc, tu peux te permettre des choses avec lui que tu ne pourrais pas forcément te permettre avec d'autres. Donc, c'est un cas sur 10, tu vois.
Mais il y a la particularité, c'est ce que tu disais. Et après, je laisse la parole à Tonton parce que sinon, il va bouillir. C'est qu'il s'est musclé très, très vite. Il s'est musclé très, très vite et il a une musculature. Moi, c'est la scène où c'était le dernier match. Avec ma mémoire, je ne suis plus capable de citer le match. Mais bon, le dernier match du Paris Saint-Germain où il y a un joueur qui essaie de lui récupérer la balle en faisant faute et c'est le joueur qui finit par terre et Warren qui reste debout. Mais il s'est développé tellement vite que ça peut amener aussi des fragilités. Alors très rapidement, avant de passer la parole à Tonton, je voulais réagir. Oui, on comptait, me suis planté, hein, Zamorano, c'est 178, pas 168. Je me suis trompé d'une dizaine, mais ça reste même 178. Il prenait la balle. Et je suis désolé, Shiraz, pour le coup, parce qu'il prenait la balle à des défenseurs qui faisaient 1m85, 1m90 à côté, et c'est lui qui l'avait à chaque fois. Donc, oui, la taille, bien sûr, entre un mec qui a le timing et qui est grand et un mec qui a le timing et qui est petit, celui qui est grand ira plus haut. Le meilleur exemple, c'est Cristiano Ronaldo. Mais le timing est un facteur bien plus prévalent que la taille pour la capacité à récupérer les têtes. Et j'en ai fini. Et maintenant, je lance celui qui attend depuis tout à l'heure, qui est en train d'attendre avec impatience, qui est en train de ronger son frein comme jamais, vous l'avez tout demandé, vous l'avez, c'est Tonton.
Déjà, pour rebondir sur ce que tu dis sur Zamorano, je dirais que c'est pas la taille qui compte, mais ce que tu en fais. Mais petit lapsus sous-entendu.
Laisse continuer.
Mais 10 cm, voilà. C'est important. 10 cm,
exactement. C'est important. Ça fait une sacrée différence quand même. Mais du coup, pour revenir justement sur Serif Naga, en ce qui me concerne, c'est le même cas que Sherif Endur pour moi. C'est des jeunes joueurs et du coup, ils peuvent avoir une place à jouer dans l'effectif en fonction de ce que Luis Enrique imaginera pour eux. Pour le coup, on n'a pas un coach qui a un problème avec les jeunes et hésitera à les faire jouer. Je ne vais pas citer les autres coachs parce que je ne vais pas manquer de respect aux anciens coachs du PSG. Mais de toute manière, vous devinerez vite de qui je parle. Mais il y a quand même des coachs qui donnent moins de temps de jeu. On a dit qu'on ne parlait de personne, Darias. Mais comment ? Il y a des coachs qui ne donnent pas forcément beaucoup de temps de jeu aux jeunes, qui n'ont pas confiance aux jeunes. Et Luis Enrique, pour le coup, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est un coach qui lance beaucoup les jeunes joueurs. T'as qu'à voir, quand il était sélectionneur, le mec, il te fait venir du Gavi, 17 ans, du Pedri, 18 ans. Faire jouer les jeunes joueurs, c'est son dada. Il adore ça. Donc, si des mecs comme Serif Naga et Endur ne jouent pas tant que ça jusqu'à aujourd'hui, ben, c'est qu'il y a une raison. Je pense que c'est l'utilisation qui va leur en donner. Il estime qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Et si lui, il le décide, alors que pour le coup, c'est un coach qui, tu le vois avec Warren Zaïre-Emery, par exemple, hein, si tu es jeune et que tu es bon, tu joues. À lui, tu ne lui parles pas d'âge, à Luis Enrique. Ça me rappelle quelqu'un du PSG, d'ailleurs. Donc, au final, je pense juste que c'est une question d'utilisation et qu'à terme, tu pourras les voir au PSG. Mais pour le moment, un petit peu compliqué. Non, t'as vu, je me retiens. Je l'ai laissé à Fabrice pour aujourd'hui.
Non, t'entends pas, Darius, t'as muté ton micro. Ouais.
Pardon, excusez-moi. J'espère que... Enfin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, je pense qu'on a fait quand même le tour.
Bah, en tout cas, Fabrice, un grand merci à toi. Je te souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de continuer avec beaucoup de succès tout ce que tu fais au niveau du PSG. Au niveau, n'hésitez pas à aller d'ailleurs check les médias officiels du PSG. Et quand vous voyez les médias officiels du PSG, sachez qu'il y a un Fabrice qui était avec nous aujourd'hui, yes, qui est derrière. Vous pouvez même le voir des fois dans les films qui sont faits. Notamment avant les conf de presse, enfin juste après dans l'analyse de la conf de presse, avant c'est Ambre comme il nous l'a rappelé tout à l'heure. On était avec Tonton et Kev, les régulars parmi les régulars, c'était Dryas ici. Ce fut un plaisir de vous avoir, j'espère que vous avez kiffé. Ceux qui n'ont pas mis leur petit pouce, mettez-le, ça vous coûte rien, vous êtes avec nous depuis 1h15 maintenant. En vrai, si vous ne l'avez pas mis, vous faites un peu les crevards quoi. Donc mettez votre petit pouce, ce fut un plaisir messieurs, et n'oublions pas, ici c'est Paris. Ciao tout le monde. Wow, merci.